Espace 2. La vie à peu près, Jean-Marie Félix.
La vie à peu près, Florence Grivel vous propose cette semaine une série d'entretiens avec le peintre Alexandre Loy. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Dérouler son cheminement personnel et artistique, en s'arrêtant sur quelques événements majeurs qui le jalonnent, eh bien c'est cela que nous proposons chaque semaine à une personnalité de la scène culturelle, qu'il soit musicien, écrivain, peintre, plasticien, comédien, ou pourquoi pas responsable d'institution. Et cela au cours d'une série d'entretiens chapitrés et thématisés, à suivre chaque jour sur Espace 2, après les infos de midi. Cette semaine, la parole appartiendra à Alexandre Loy, un artiste peintre qui tient par-dessus tout à sa liberté de ton et de créateur. Il est valaisan, il a passé son enfance essentiellement au Trétien, village accroché à la pente près de Salvan. Son enfance a été un peu solitaire, mais très inspirante, puisque son père, Pierre Loy, est lui-même artiste peintre et sculpteur. Par la suite, Alexandre Loy s'est formé aux Beaux-Arts de Genève, puis s'est installé dans un atelier lausannois, et c'est là qu'il a reçu Florence Grivel par un matin d'hiver pour cette série d'entretiens qui a commencé par une visite de son atelier et quelques considérations sur le geste artistique. Voici la vie à peu près d'Alexandre Loy, premier épisode.
Bonjour Alexandre Loy.
Bonjour Florence.
Alors, on se retrouve dans votre atelier lausannois, pas loin du lac et du musée romain. L'eau, l'histoire, c'est quelque chose qui vous parle ?
Non, très peu. Ce que les gens voient ici, ils me disent « Ah, t'es à côté du lac, tu vas te baigner et tout ». Mais en fait, moi, je suis plutôt pas pour l'eau. Je trempe très rarement mes pieds dans le lac.
Mais l'histoire ?
Et l'histoire. Comme tout sujet de réflexion concernant l'évolution de l'humanité, etc., j'aime bien savoir des choses sur comment les gens vivaient, comment...
Les strates du
qu'est-ce
temps.
Qu'est-ce qu'ils pensaient, les strates du temps, et puis en même temps mesurer ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Oui, ça fait partie, je lis volontiers plutôt des essais historiques que des détails de les dates de machin, enfin ce qu'on faisait à l'école, ça non, j'ai un peu arrêté, hein.
On est dans cet atelier. Enfin, j'aimerais bien qu'on en fasse une sorte de, je sais pas,
petite visite.
Une petite visite de cet atelier, en effet, parce que il y a de quoi voir, il y a de quoi se nourrir les yeux et plein d'autres sens. Ça sent la terre ébantine. Vous êtes un peintre qui aime la peinture à l'huile. Vous aimez dessiner, vous aimez l'encre aussi. On est dans un, c'est quoi ? C'est un sous-sol, c'est un garage.
Ouais, c'est un rez-de-chaussée. Je sais pas si c'était un garage, je sais pas ce que c'était en fait. Il y a un bureau à côté, puis moi j'ai cet atelier depuis voilà X temps.
X temps, ça veut dire
X temps, 17 ans. Je suis ici. J'étais pas tout seul au début, mais je suis le dernier qui suis resté.
Et puis alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on sent que c'est un lieu évidemment de en travail et de travail, mais avec aussi beaucoup de, je dirais pas d'archives, mais il y a beaucoup de toiles qui sont déposées ici. Ça pourrait même être un showroom, cet atelier. Il y a partout des œuvres, hein, qu'elles soient de petit format, de grand format. Il y a des feuilles de papier, il y a des pinceaux divers et variés, des tubes de peinture, des chiffons. Vous avez besoin d'être dans un environnement comme ça assez, on va dire, je dirais pas chaotique, mais riche, si on peut dire ça comme
oui.
Ça.
Non, je comprends. Non, il y a des tas. Il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Hein. Donc ici, il y a des tas, en fait. Ça, c'est vrai que je fais des tas un peu partout. Je dois reconnaître. Chez moi aussi, il y a des tas. Donc, je suis pas très doué pour faire de la place. Mais ici, c'est vraiment dans le processus de travail. J'ai énormément de choses en cours. J'ai besoin d'avoir beaucoup de choses en cours, aussi pour des raisons techniques. Et puis, du coup, ben voilà, ça s'empile. Et puis, ça bouge, en fait, de jour en jour, mais tout en étant appuyé sur les mêmes choses tout au fond qui bougent jamais. Voilà. Puis sinon, non, je pense que c'est un peu le contraire d'un showroom. Je suis même d'ailleurs assez embêté quand je dois montrer mon travail parce que j'arrive pas à aller au bon endroit pour trouver les toiles vraiment finies, que je dis c'est des valeurs sûres ou je sais pas quoi. Quand je suis ici, j'ai toujours envie de montrer des trucs que je viens de commencer parce que ou je suis en train de faire, ou c'est un peu le contraire d'un showroom.
Est-ce qu'il y a des œuvres, justement, bah, vous le dites, vous êtes très passionné par le présent, votre présent, est-ce que vous présentez justement aux personnes qui viennent vous voir dans votre atelier, est-ce qu'il y a des œuvres qui datent d'il y a, je ne sais pas, justement 15-16 ans, qui ne vous intéressent plus et que vous pourriez détruire?
Ah bien sûr, oui, oui. Première chose, c'est qu'elles ne sont pas ici la plupart. Moi, j'ai la chance d'avoir un stock chez mes parents, je peux... Quand j'ai plus de place, je peux amener des choses pour pouvoir continuer. Parce que si j'avais tout ici, je pense que je pourrais plus continuer à travailler. Et puis, par contre, bah, dans ce qui me reste, autant je regarde, bah, je fais un tri. Je fais un tri pour ce que j'amène là-bas. Je fais un tri pour des choses, des fois, que je retravaille. Et puis, des choses que je détruis, oui, oui, oui. Des fois, on voit que c'est du passé. Il fallait les faire parce que c'était en chemin vers quelque chose. Mais c'était juste une étape qui n'est pas nécessaire, en fait, en soi. Puis je me dis, ben ça, je le montrerai jamais. Même si j'ai l'occasion, je le montrerai pas. Je peux détruire.
Bien sûr que l'atelier, on peut le voir comme un tout. C'est une sorte de grand organisme. Mais je trouve que c'est toujours passionnant qu'un artiste nous présente peut-être un ou deux aspects qu'on ne repérerait pas, peut-être, nous, le commun des mortels. Qu'est-ce que ça pourrait être?
Ce que vous repérez pas, ce que vous repérez. Il y a quand même que là, il y a mon fauteuil. Qui est une chaise en osier, en faux osier d'ailleurs, et puis qui est en face de l'endroit où je travaille. Alors ça se repère, mais voilà, c'est un élément, en fait ça fait une sorte de couloir qui doit rester plus ou moins
libre,
en ordre, ouais. Et libre.
Donc ça veut dire en fait que lorsque vous peignez, vous êtes au mur et vous prenez de la distance pour voir comment ça fonctionne sur votre chaise en osier.
Je sais même pas si je regarde comment ça fonctionne, c'est un peu comme respirer. Donc je vais là-bas, je trifouille un peu, je viens m'asseoir, je retourne. Mais bien sûr, je regarde comment ça fonctionne. Mais je sais pas si j'y pense, en fait.
Oui, oui, bien sûr, ouais, ça vous avez dit, c'est quelque chose de l'ordre de la respiration. Donc effectivement, il y a une conscience sans doute, mais pas forcément un jugement. Ouais. Autre aspect de cet atelier qu'on pourrait peut-être faire surgir comme ça.
Oui. Moi, je dois faire surgir des aspects.
Ouais.
Mon Dieu.
Non. Mais par exemple, moi, je suis ouais, voilà, je vais vous aider, Alexandre Loy. Je vois un chevalet en fait dans votre dans votre atelier, mais qui a pas l'air d'être vraiment utilisé en tant que chevalet. C'est quoi? On dirait plutôt un hôtel. Non, mais il me semble qu'il y a une œuvre de Bonnard, reproduction de Bonnard. C'est quoi? C'est un paysage. Je le vois de loin. Hein,
chevalet. Ouais. Chevalet. Vieux chevalet. Hérité de je ne sais quel peintre, en fait je me souviens, oui, qui décédé, récupéré, que j'ai utilisé en son temps, mais voilà. Et puis maintenant il me sert à poser un peu de mes trucs frais, et dessus on a effectivement un Bonnard, qui est une reproduction que j'ai trouvée dans une poubelle, je dois dire, enfin une poubelle, un tas de papier, et que j'ai gardé, maintenant je pense que ça doit faire 25 ans que je l'ai. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps au fond de mes trucs. Et je me suis dit, waouh, l'art pro est très bien, puis c'est un Bonnard que j'ai jamais vu ailleurs. Du coup, il y a un an, je l'ai ressorti, là, je l'ai mis, puis ma compagne, maintenant, je l'oublie.
De loin, il est assez étonnant parce que j'arrive même pas à voir s'il est figuratif, mais j'imagine que oui. Et c'est quoi, c'est de la végétation, il y a un ciel.
Ouais, des arbres, un bout de mur, puis il y a un petit oiseau en bas. Je crois que c'est l'oiseau bleu, le titre. Et c'est un fouillis.
Ouais, c'est ça. Hein.
C'est un fouillis, mais il est très construit, en fait, ce fouillis. Les taches foncées, elles sont dans un endroit précis. Les taches claires, elles sont dans un endroit précis. Enfin, moi, il y a quelque chose dans le rythme de cette peinture qui va vraiment bien avec là où j'en suis.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire pouvoir donner une impression de flou et de fouillis, justement, de prolifération, tout en étant dans quelque chose qui est quand même organisé.
Ce qui est intéressant, c'est que juste à côté de cette reproduction, toujours sur ce chevalet, il y a quelque chose d'autre d'épinglé. J'ai l'impression que c'est une coupure, je sais pas, de journal avec, de nouveau de loin, je vois une sorte de forme.
C'est un bout de toile avec deux tests
De
couleurs pour voir comment ça sécherait, parce que c'est de la toile industrielle que j'aime pas. Mais j'en ai un grand format et puis je me suis dit, est-ce que je vais peindre dessus ou enlever cette toile et en mettre une autre?
Et alors?
Et alors, j'ai quand même peint sur cette toile, mais je dois dire que ça me demande un effort. J'aurais pas dû. Prochaine fois, je fais pas.
Donc c'était pas une bonne initiative.
Non, mais c'est de la toile, elle est recouverte de plastique. Je veux dire, ils prennent du plastique et puis un rouleau compresseur, ils mettent dessus. Et puis peindre sur du plastique, ça fait vraiment bizarre. Hein. J'y arrive pas. Moi, je peins sur plutôt des choses organiques, en fait. J'utilise de la colle de peau, j'utilise de la caséine sur de la toile écrue. Donc, en fait, c'est plutôt organique. Je n'ai pas dit écologique.
Oui, justement, j'allais le dire. Vous faites de l'éco-peinture.
Non, parce que c'est plein de produits chimiques. Mmh. Et puis, la colle de peau, c'est des animaux morts. Hein.
C'est pas très vegan.
C'est pas vegan. Ouais. Non.
Cet atelier, je crois que c'est un secret pour personne, Alexandre Loy, c'est vraiment votre... c'est presque un lieu de vie, c'est une tanière, c'est le lieu du travail, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Enfin, c'est très investi. Et vous me disiez une fois dans une autre interview que tout ce qui était de l'ordre de partir de l'atelier, c'était un peu pénible. Vous pouvez nous redire pour quelle raison?
Oui, oui. Oui, parce que je suis en cours dans mon truc. Puis j'ai envie d'y aller, j'ai envie de peindre. Je me dis, ah, ça, il y a encore ça, enfin... Je ne sais même pas exactement quoi j'ai envie de faire, mais j'ai envie de continuer. Je remarque que plus je peux avoir de continuité, mieux c'est aussi. Moi, je perds le fil si je pars. Alors souvent, c'est plus... Quand même, j'ai remarqué là, parce que Nouvel An, les fêtes, il fallait faire des choses. C'est plus avant. Hein. Ça me va si je suis ailleurs. Mais juste la veille, je me dis, ah zut.
C'est une sorte d'arrachement, en fait.
Ouais, je dois m'extirper, quoi. Ouais.
Parce que le monde extérieur, les grandes respirations ne sont pas là pour infuser votre travail, c'est autre chose, c'est ailleurs que ça se passe, Alexandre Loy.
Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup ailleurs, c'est beaucoup en fait ici, c'est-à-dire ailleurs.
À l'atelier.
Ici, à l'atelier, c'est-à-dire c'est comme je joue l'ego, je joue avec mes formes, avec mes idées, avec mes phrases, j'empile ça de toutes sortes de façons. Et c'est là que beaucoup de choses se passent. Et ensuite les respirations dehors, il y en a besoin d'assez peu. Parce qu'au fond, si ici, j'ai trouvé comment fonctionnent les formes, les choses, comme ça, je sors, je vois un truc, je vois quelque chose. Un petit truc, ça me suffit pour une semaine. Par contre, moi, d'aller, effectivement, ben, que ça soit visiter des musées, voir des paysages ailleurs, etc., je ne sais pas quoi en faire.
Ça vous encombre, en fait.
Alors, ça m'encombre, je laisse couler. Mais comme je n'ai pas tendance à laisser couler, j'ai envie de faire quelque chose presque avec tout ce que je vis, partir en vacances, puis laisser couler... Dire, bah voilà, juste je vois, mais j'en fais rien. Pour moi, ça me fait un peu bizarre.
En fait, c'est comme si vous étiez un touriste dans votre vie, alors que finalement, c'est pas ça. Ouais, c'est-à-dire que votre vie nourrit votre art, donc l'art et la vie est complètement fusionnel.
Oui, bien sûr.
Et un petit peu d'eau qui. dans les... Parce que oui, on est un peu quand même.
Oui, on est en dessous.
On est en dessous. Voilà. On est dans les canalisations.
Non, cela dit, si je reprends là, je pense quand même. Que sortir un peu, faire un truc, faire quelque chose d'autre, c'est utile. Mais je veux pas.
Mais à quel moment, Alexandre Loy, justement, ça devient pratiquement plus qu'une nécessité, finalement, cette manière d'être au monde, cette envie de peindre, d'être en cours?
À quel moment?
Alors, j'imagine bien que c'est peut-être pas... Il n'y a pas un déclic, mais à quel moment vraiment ça s'installe, ça devient...
Dans la vie?
Ouais, dans la vie, ouais.
Ah, très bien. C'était pas autant marqué, mais je veux dire, dès que j'ai commencé à dessiner, moi j'ai crushé. Donc, quand je pouvais, je dessinais. Après, il faut, avec le temps, j'ai développé de l'endurance. Je peux travailler plus longuement, plus longtemps, tous les jours. Et puis, en même temps, bah, avec le temps qui passe, et puis, ce qu'il y a à faire, ce que je sens qu'il y a à faire, ce que je sens qui est possible, bah, ça développe aussi une sorte d'urgence. Je dis, ça serait trop bête de pas faire. Bah, si je suis pas là, ça se fait pas. Y a pas de réserve de bonne toile que je pourrais faire dans 10 ans. Puis, je réfléchissais aussi à un autre truc ces derniers jours parce que je me suis rendu compte, parce que j'ai fini des choses anciennes, pas mal. Puis, ces temps, j'ai pas mal patiné sur des choses nouvelles, des motifs nouveaux. Puis, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, ça, c'est encore 4-5 ans avant que ça fonctionne. Pas cette toile-là, mais cette piste. Je la tiens pas. Je suis pas encore. C'est pas encore naturel de sortir ça. Je fais trop d'efforts sur une toile. Je dois trop bricoler pour que ça joue. Bah, s'il faut 5-6 ans avant que ça aboutisse quelque part, bah, j'ai intérêt à être au boulot.
Mais c'est très intéressant ce que vous dites, Alexandre Loy, parce que trop d'efforts, ça dessert la peinture. Et en même temps, être dans une sorte de virtuosité d'aisance, c'est pas non plus la bonne direction. Donc, qu'est-ce que vous ajouteriez à ça, Alexandre Loy?
L'effort est important pour moi. Mais je me suis dit qu'en fait, c'était pas l'effort, finalement. C'est la dépense. je crois que je dois un peu m'épuiser. Pas au sens complètement fou d'être à genoux, mais en étant beaucoup, en travaillant beaucoup, il y a un moment donné où ça passe au-delà de l'esprit critique, de la complaisance, de tout ce qu'on veut. Ça passe au-delà de tout. Parce que, ouais, on peut entrer un peu dans un état second.
On peut même parler de transe.
Et où il y a des choses
qui
surgissent à ce moment-là. Et puis elles ne surgissent pas d'un coup, parce que la peinture, ce n'est pas vite fait. Donc il faut un état second qui dure. Et je pense qu'il y a besoin d'une sorte de dépense pour arriver à ça. Et puis je vais le dire encore d'une autre façon, beaucoup plus pragmatique. C'est que, en ayant plein de toiles en cours, il y en a une ou l'autre qui réussissent au-delà de mes espérances, au-delà de ce que je peux imaginer. Après, c'est elles qui font la boussole pour la suite. Si j'en fais une par semaine ou par mois, enfin, si je bosse un jour par semaine, bah, je vais me contenter de ce que j'ai. Mais quand il y a un truc qui arrive, paf, qui me dépasse, ça incite à...
Mais
à
ça
espérer
aussi...
pour le reste.
Oui, ouais, absolument, mais c'est vrai que ça peut être assez sibyllin. Pour les gens qui nous écoutent, quelque chose qui vous dépasse, ça veut dire quoi?
Oui. En plus, j'aime pas dire ça parce que je me souviens d'un copain qui se moquait de cette expression de l'artiste dépassé par son œuvre. Ouais, t'es sur l'autoroute, tu la vois dans le rétroviseur, puis tout à coup, ton œuvre te dépasse. D'accord. On a des idées, on a des images, on a envie de faire ça, un truc, machin, ça, comme ça. Puis en plus, bon, on a de la technique pour bien peindre et... Mais ça, c'est pas grand-chose, en fait. C'est déjà bien, hein, mais c'est pas grand-chose. Moi, je pense qu'il y a certains moments, en tout cas pour moi, c'est comme ça, quand je travaille, il y a des choses qui arrivent que j'ai pas prévues, qui sont à la fois plus simples et plus riches que ce que je pensais, et puis qui battent en brèche mes conceptions. Je croyais que ce que je voulais faire, c'était ça. J'avais l'idée. Mais tout à coup, ma toile, elle est mieux. Et puis elle va pas tout à fait, puis elle me tracasse, elle m'interroge par ce qu'elle dit sur le monde, qui n'est pas tout à fait une position claire, qui n'est pas tout à fait une position que je peux comprendre, résumer. Là, je me dis, c'est en train de toucher quelque chose qui me plaît, puis qui risque de durer pour moi.
Mais vous avez l'impression, alors je vais utiliser un gros mot, qu'il y a quelque chose de transcendantal là-dedans, qu'il y a quelque chose de sacré, qu'il y a quelque chose de... C'est une grosse question, c'est des gros mots hein, que je sors là, Alexandre Leuillant.
Ouais, mais je sais pas quoi répondre. Peut-être que non, pas du tout. C'est juste matériel. C'est matériel. Pour moi, c'est la qualité d'un message. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a plein de gens qui ont écrit des trucs, des poèmes avec des vers, des sonnets, des machins. T'as coup, il y en a un. Tu te dis, mais ça touche. Ça me touche moi. Et ça dure. Ben, il est bien tombé dans ce qu'il a dit. Et ça, c'est pas transcendantal, c'est pas métaphysique, c'est matériel, mais je sais pas, ça parle plus fort que d'autres choses.
Mais est-ce que ça voudrait dire, Alexandre Leuil, qu'il y a une mise en condition pour arriver à ça? Vous avez parlé un peu de cet effet de dépense, mais est-ce qu'il y a des jours avec, des jours sans? Est-ce que vous pouvez susciter
Tous les jours, j'essaye de m'approcher. Puis il y a un peu un temps comme ça pour arriver. Je pense que quand j'arrive le matin, il me faut un petit moment, là, j'essaye de faire des trucs. En général, je m'adresse à quelque chose de pas trop important. Je dois m'adresser à une toile ou l'autre. Je dois choisir à laquelle je peux m'adresser aujourd'hui. A priori, je ne sais pas. Puis, il faut que je commence à peindre. Parce que c'est tout à coup, c'est en mettant une couleur sur celle-ci. Je me dis, ça pourrait aller pour une autre. Ou même pas la même couleur. Mais... Et puis là, c'est que ça commence à marcher.
Donc, ça veut dire que vous sortez de la pile une autre toile pour la faire vibrer.
Je vais aller chercher une autre toile. Je sais laquelle j'ai envie, là. Mais non, celle-là. J'ai une piste pour la continuer. Alors ça, c'est quand ça va très bien.
Mais donc là, on peut carrément parler de plaisir, de jouissance.
Ah oui, ça s'éclate, oui. Oui.
Est-ce qu'il y a des... Je sais pas, est-ce que là, on est dans la saison de l'hiver, il fait frisquet, est-ce qu'il y a des saisons meilleures pour la peinture, une météo qui vous
non,
est propice, Alexandre Leuil?
Non, c'est pas trop. Un temps, j'aimais mieux l'hiver, parce qu'il y a ce côté plus replié, abrité. Mais maintenant, j'ai changé. J'aime bien laisser ma porte ouverte. En hiver, je peux pas. Et puis, comme tout le monde, la petite dépression hivernale. Franchement, dès passé le solstice, ça va beaucoup mieux. Hein. Là, les jours se rallongent déjà un peu. Waouh, je suis content.
On pourrait imaginer que vous êtes tellement bien et tellement ancré dans cet atelier qu'on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne vit pas dans son atelier, Alexandre?
Non, bon, c'est déjà pratiquement, je pense que ça poserait des problèmes. Et je crois qu'à un moment donné, il faut que je sorte. Moi, je pars presque tous les jours, je pars vers 6 heures et je pars. Parce que des fois, j'ai passé une tellement bonne journée, je me dis, ouais, je vais rester encore un moment. C'est fini. J'ai pris l'habitude, je m'arrête, ça s'arrête. Puis il faut que je dorme, quoi. Alors il y a un truc, on doit franchir la nuit puis revenir demain. Ça fait partie. Enfin, c'est l'être humain, quoi.
Il y a un biorhythme, en fait. Vous arrivez à quelle heure à l'atelier?
Tranquille, le matin, 9h, 9h30.
Donc, juste avant que je n'arrive, vous étiez en train de peindre?
Ouais, ouais. Ce matin, je me suis un petit peu dépêché. Et puis, je me suis dit, il faut que je peigne un peu.
Et là, si on pouvait... Parce que là, il y a une toile devant votre fauteuil.
Ouais.
On pourrait la raconter. Il y a une grande main qui se balade.
Ouais, ça s'appelle Panique. C'est une main, un bonhomme, qui part en courant avec un petit fond de ville. Et c'est une vieille toile, c'est une date de 2009. J'ai repris récemment parce que c'était ça où l'a jeté justement. J'aimais bien le thème. Mais je sais pas encore du tout si ça va donner quelque chose de bien ou pas.
Et ce matin, qu'est-ce que vous avez? Parce que comme ça, elle a l'air d'être déjà bien développée. Ouais. Toute la surface de la toile, en tout cas, est peinte. Hein, ce qui ne veut pas dire que c'est terminé, évidemment. Mais qu'est-ce que vous avez ajouté aujourd'hui pour que ça commence à vibrer autrement?
Mais j'ai commencé à bosser la partie route, qui est à l'arrière-plan, une route qui tourne. Ben, je ne sais pas quoi faire encore avec cette surface. Ça jouait bien dans la version précédente. Mais là, comme j'ai changé un peu la gamme de couleurs, je ne sais pas encore. Et puis voilà, ça ne mange pas de pain, il fallait juste faire quelque chose. J'ai fait un petit bout, ça ne change pas vraiment en fait, le problème. Mais comment dire, ça nourrit en fait, la toile. Puis ça devient une étape assez agréable à juste faire. Ouais, ça, il faut dire, c'est que les toiles ont pas toutes, sont pas dans la même étape. Et franchement, il y en a, des fois, c'est près de la fin, il faut quelque chose de très précis. On ne sait pas encore quoi, mais il faut quelque chose de très précis. Puis d'autres, il faut oser y aller pendant un temps, comme ça, pour qu'elles se nourrissent, se remplissent de quelque chose. Ouais, là, des fois, il y a un peu plus d'aléas. Ça pourrait aller par là, ça pourrait aller par-ci.
Je vous écoute intensément et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de faire glisser mon regard sur la pile de CD que vous avez. On sent qu'il y a quand même aussi un univers sonore qui est important. Donc, vous peignez, je sais que vous peignez avec la radio allumée parce que le blabla, c'est quelque chose qui vous permet de canaliser en fait votre esprit pour vous mettre en peinture. Mais ça, peut-être qu'on en parlera lors d'un autre épisode. Vous peignez en musique?
Un petit moment l'après-midi, quand il y a des émissions que j'aime pas en fait. Ou alors des très bons jours, quand il y a des heures creuses dans la radio. Ou alors un très bon jour où j'écoute un peu plus de musique. Voilà. Mais trop, ça devient aussi, à un moment donné, j'écoute plus, je participe plus. Donc ça, j'ai pas envie. Je veux dire, passer quelques morceaux en étant bien là à les écouter. Enfin, c'est pas écouter, c'est vivre avec, quoi.
Qu'est-ce que vous nous offririez là maintenant pour clore ce premier épisode, Alexandre Loy?
Bon, alors... Moi, j'avais réfléchi, mais je vais changer l'ordre de ce que j'avais réfléchi. Donc, on va directement mettre un petit morceau bien punk rock dans le style que j'aime bien.
Et comment ça s'appelle?
C'est DX. Je crois que c'est le premier morceau du premier album, The Sky is Blue Again.
Et pourquoi est-ce que vous aimez cette musique?
Je sais pas, moi. À 17 ans, ça m'a redonné le sourire. Et j'ai pas changé d'avis. J'aime toujours le punk rock.
Bah, ça tombe bien parce que demain, on va se retrouver et justement, on va un peu parler de votre jeunesse, de votre adolescence. Et on va voir justement quel sourire vous aviez. À demain, Alexandre.
À demain. We'll be right back.
limited, but you're really kind. You've got lots of charm, so I made up my mind. I threw away my glasses, I decided to stay. For love is blind, let's keep it that way.
Bien voilà un genre musical dont on est très peu familier sur Espace 2. C'était là le groupe post-punk expérimental néerlandais The X, The Sky is Blue Again. Un choix d'Alexandre Loy pour conclure le premier chapitre de sa vie à peu près. Alexandre Loy, invité toute cette semaine dans La Vie à peu près au micro de Florence Grivel. Demain, nous retrouvons l'artiste dans son atelier pour évoquer son enfance passée au Trétien, village des montagnes valaisannes, entouré de parents eux aussi artistes. Pour l'heure, nous allons poursuivre dans un registre musical beaucoup plus polissé, avec une programmation proposée par Luc Thérapon. Voici tout d'abord le deuxième mouvement de la symphonie numéro 4 d'Arthur Honegger, dite Deliciae Basiliensis, les délices de Bâle. Le Symphony Orchestra de Bâle est dirigé par Dennis Russell Davies. Passacaglia, Larghetto, Dennis Russell Davies, à la tête de l'Orchestre Symphonique de Bâle, livrait là son interprétation du deuxième mouvement de la symphonie numéro 4 d'Arthur Honegger. Musique de chambre maintenant, sur un ton plus enjoué. Voici le quatrième mouvement final du quintet à cordes en ré mineur du compositeur allemand Hans Küssler. Le Frankfurter Streichsextett est à l'œuvre. Thank you. Finale, Allegretto con moto. C'était le dernier mouvement du quintet à cordes en ré mineur de Hans Kössler, interprété par le Sextuor à cordes de Francfort. Et nous allons poursuivre avec une œuvre pour orchestre de Ralph Vaughan Williams. Roger Norrington, à la tête du London Philharmonic Orchestra, donne du souffle au scherzo de la symphonie numéro 2, œuvre du compositeur britannique.
Thank you.
Scherzo Nocturne, l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Roger Norrington, interprétait le troisième mouvement de la symphonie londonienne de Ralph Vaughan Williams. Et pour conclure cette traversée musicale, voici le mouvement initial de la sonate pour violoncelle et piano en ré mineur de Dmitri Shostakovich. Aliza Weilerstein tient l'archet, Hélène Wang est au clavier. Voilà, nous allons nous quitter avec cette partition de Shostakovich. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Je vous retrouve très volontiers demain pour le deuxième chapitre de La vie à peu près, consacré au peintre Alexandre Loy. Merci à Florence Grivel, Sophie Grécuccio, Sophia Muller et Luc Thérapon qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Je vous souhaite de passer un bel après-midi.
Zone bleue. Une émission des réalisateurs d'Espace 2. Rendez-vous tous les jours de la semaine, de 18h à 19h, et en nouvelle diffusion à minuit. Zone bleue. Bleue. Sur Espace 2. 2.
Espace 2, il est 13h, voici en nouvelle